VOA Afrique, les infos. À Washington.
Il est 21h, temps universel sur VOA Afrique. Dans quelques minutes, vous aurez la leçon d'anglais, mais tout d'abord, un point complet sur l'actualité. Le président américain Barack Obama a estimé aujourd'hui que l'approche de la Russie en Syrie, où elle mène des bombardements depuis mercredi, était vouée à l'échec. C'est la recette d'un désastre et les frappes aériennes de Moscou contre l'opposition modérée syrienne vont être contre-productives, a affirmé le président américain lors d'une conférence de presse. Monsieur Obama a jugé possible de trouver avec Moscou une solution politique si la Russie reconnaît qu'il doit y avoir un changement de gouvernement dans ces pays.
Mr. Putin said was that he doesn't distinguish between ISIL and a moderate Sunni opposition that wants to see Mr. Assad go. From their perspective, they're all terrorists.
Sur le continent africain, au Burkina, allègement du couvre-feu. Le gouvernement du Burkina a annoncé aujourd'hui un deuxième allègement du couvre-feu instauré pendant les coups d'État du 17 septembre. Les couvre-feux commencent à 1h du matin et se terminent à 4h du matin. Les gouvernements invitent les populations de villes et campagnes au respect des stricts de ces nouveaux horaires et à rester vigilantes. En RDC, appel à une marche au soutien aux frondeurs de la majorité au pouvoir. Gabriel Kyungu Akumwanza, dirigeant d'un des 7 partis exclus de la majorité au pouvoir pour avoir dénoncé les flous du régime quant aux prochaines élections en RDC, appelle à une marche le 10 octobre à Lubumbashi, deuxième ville du pays. Initiateur de la marche et président de l'Assemblée locale et leader de l'Union nationale des fédéralistes au Congo, l'UNAFEC. Parti membre du G7 et groupe de 7 partis qui a fait défection de la majorité mi-septembre, dénonçant des manœuvres pour maintenir M. Kabila illégalement au pouvoir après 2016. Nous devons prouver à la face du monde que G7 est la solution du moment pour sauver la démocratie dans notre pays, affirme M. Kyungu Akumwanza. Toujours en RDC, journée de deuil et de méditation dans les territoires de Beni. La population locale s'est rendue aujourd'hui dans différents lieux de prière à l'appel de la société civile qui soutient avoir comptabilisé plus de 500 personnes sauvagement tuées en un an dans la région par les groupes armés. La société civile affirme que la situation a empiré depuis un an, selon Teddy Catalico, président de la société civile au Bénin, à Béni. Au seul mois de septembre, au moins 27 morts, 23 personnes enlevées et plus de 7 véhicules ont été incendiés. Selon lui, les rebelles ougandais des ADF Nalu sont les auteurs de ces massacres qui se poursuivent bien que l'armée ait mené plusieurs opérations contre les groupes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, Conan Bani appelle Ouattara au dialogue pour des élections apaisées. L'ancien premier ministre ivoirien, devenu opposant, estime que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Charles Conan Bani a fait cette déclaration à l'AFP lors de son passage à Paris. Si l'on s'en tient au climat actuel, les conditions pour avoir des élections libres et apaisées ne sont pas réunies, a déclaré M. Conan Bani lors de son passage dans un entretien avec l'AFP. À Bangui, les humanitaires sont empêchés de secourir 42 000 personnes selon l'ONU. Les patrons des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, a affirmé aujourd'hui que des groupes armés empêchent les organisations humanitaires d'accéder à plus de 42 000 personnes qui ont fui les récentes violences dans la capitale centrafricaine. L'insécurité est entretenue par les groupes en est la raison. Merci donc d'avoir suivi cette session d'information et rendez-vous dans une heure avec votre serviteur. Mais dans l'entretemps, rendez-vous sur notre site internet VOA Afrique et sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue et bonsoir, chères auditrices, auditeurs de VOA Afrique. C'est votre émission interactive. Aujourd'hui, nous décortiquons la situation en République centrafricaine. Ce pays vient de connaître une flambée de violence qui a emporté au moins 70 vies humaines. 200 autres ont été blessés, près de 30 000 déplacés dans la ville, placés sous couvre-feu. Le calme est revenu, mais des problèmes subsistent. La présidente centrafricaine, Catherine Samba Panza, a écourté son séjour à New York. Au retour dans son pays et après avoir appelé au calme, elle a qualifié de tentative de prise de pouvoir par la force. Les violences qui ont éclaté samedi à Bangui, une conviction partagée par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, selon lequel ces violences visent à déstabiliser le pays. Un référendum sur l'adoption d'une nouvelle constitution préalable à toute élection était initialement fixé au 4 octobre, mais les opérations de recensement électoral ne sont toujours pas achevées, alors que le premier tour de la présidentielle avait été fixé au 18 octobre. Que faut-il faire pour stabiliser ce pays, aller aux élections? C'est la grande question qui va retenir notre attention, l'attention de nos auditeurs, l'attention de nos intervenants. Nous avons le plaisir de recevoir sur nos antennes de VOA Afrique M. Anissé Guyama Massogo. C'est le porte-parole de la présidente Catherine Samba Panza. Monsieur Anissé, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue, merci d'avoir accepté à participer dans cette émission.
C'est moi.
Ouais. Nous avons aussi notre correspondant à Bangui, c'est Freeman Sipila. Freeman, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Oui, bienvenue. Nous aurons également des auditeurs qui vont appeler du monde entier. Eric Manirakiza est avec vous ici à Washington DC depuis le studio 10 de La Voix de l'Amérique. Georges Léonard Sagnot est à la cabine technique, accompagné de notre ingénieur de son, Nelson Lopez. Sans tarder, Freeman, voudriez-vous nous décrire l'ambiance qui règne à Bangui? La journée était calme, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, la situation est plutôt calme par rapport à ces 6 derniers jours. Les activités ont repris à certains endroits, notamment dans les quartiers sud et au centre-ville. Sauf que dans la partie nord, les activités sont toujours paralysées malgré la réouverture de certains commerces et les activités ont un tout petit peu repris. La circulation reste toujours paralysée. Et donc, jusqu'à ce soir, on entend des tirs sporadiques dans certains quartiers, mais rien d'inquiétant. Donc, c'est la situation aujourd'hui à Bangui.
Voudriez-vous nous rappeler ce qui a provoqué les heurts que nous avons vus et qui ont fait des victimes?
Alors, tout a commencé le samedi dernier. Donc, le corps d'un jeune musulman qui serait donc un taxi moto a été retrouvé au quartier combattant, ça c'est non loin de l'aéroport. Donc après avoir ramené le corps au kilomètre 5, ça c'est l'enclave musulmane de la ville de Bangui. Donc certains jeunes musulmans armés sont été pris donc aux habitants des quartiers non loin de PK5. Donc après cela, il y a eu cette vague de violence, il y a eu plusieurs maisons incendiées, plusieurs personnes tuées, une vingtaine le même jour. Et donc c'est ça qui a soulevé donc la colère des jeunes et de certains anti-Balaka qui sont pour la plupart dans les quartiers nord. Donc c'est ça qui a donc créé cette flambée de violence dans la capitale centrafricaine.
Oui, Freeman Sipila, le président du Parlement devrait rencontrer les députés pour discuter, échanger sur les différentes revendications exprimées par la société civile et d'autres groupes d'oppression. Est-ce que ça a eu lieu? Quelles sont les conclusions de cette rencontre, de cette session?
Oui, jusque-là, cette rencontre n'a pas eu lieu. Elle était initialement prévue pour le jeudi, mais pour des raisons de sécurité, elle a été reportée à une date ultérieure. Donc jusque-là, il n'y a pas eu cette rencontre des parlementaires pour discuter des revendications de la société civile.
Mmh. Merci Freeman, restez à l'écoute et avant de recevoir un auditeur qui nous appelle de la Côte d'Ivoire, nous recevons d'abord le porte-parole de la présidente Catherine Samba Panza. Monsieur Anissé, ça n'a pas été facile de ramener le calme.
Tout à fait. Comme vous l'avez si bien dit, cela a été aussi repris par Monsieur Freeman, que je salue. La situation était vraiment insurrectionnelle. C'était vraiment une situation de chaos total qui pointait à l'horizon. Et donc, pour maîtriser cela, ce n'était pas facile. Surtout que les forces internationales étaient pointées du doigt. Elles étaient, ces forces internationales, dans l'obligation de se mettre elles-mêmes à l'abri. Et donc, ça a vraiment fait en sorte que pour calmer la situation, ce n'était pas facile. Les forces intérieures, à savoir la police et la gendarmerie, ont dû déployer un trésor d'ingéniosité pour arriver à calmer la situation. Donc, ce n'était pas facile du tout.
Oui. Est-ce que vous avez réussi à identifier la genèse de cette insurrection? C'est quand même bizarre, quelqu'un qui est tué dans un quartier, tout d'un coup, à une manifestation, on demande la démission du chef de l'État.
Écoutez, déjà, il vous souviendra que le jour même où le monde entier célébrait la journée internationale de la paix, et où Madame le chef de l'État était partie pour qui devait partir pour la clôture de la semaine de la paix en Centrafrique organisée par la plateforme religieuse. Donc ce jour-là, qui était un grand jour pour la paix en Centrafrique, a été choisi pour organiser des manifestations dans la rue, demander la démission de Madame le chef de l'État. Et donc, c'est dans cette dans cette logique que les gens qui ont organisé cette situation d'insurrection se sont placés. C'est pour cela que, en fait, le décès du sujet musulman dont il s'agit, qui d'ailleurs n'est pas encore bien établi, donc ce décès ou cet assassinat n'était qu'un prétexte, puisque vraiment ça a été une machination pour mettre les gens dans la rue, pour susciter ou du moins susciter un regain de violence entre les communautés chrétiennes et musulmanes qui commençaient déjà à retrouver la voie de la cohésion. Et donc voilà comment l'huile a été jetée sur le feu pour qu'effectivement les gens puissent aller vers la conquête du pouvoir par la force, comme le chef de l'État l'a dit.
Mmh. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, le calme est revenu, peut-on dire que maintenant, la population de Bangui a compris qu'elle était roulée dans la farine par, disons, ce qu'on appelle un cynisme de ceux qui voudraient prendre le pouvoir?
Nous aimerions bien que notre peuple puisse effectivement ouvrir les yeux, rester beaucoup plus vigilant par rapport à toutes les intoxications, à toutes les manipulations qui se font, parce que, voyez-vous, ce pays est véritablement sous le coup des rumeurs, sous le coup des manipulations, des intoxications. À la moindre chose qui se passe, on essaie de amplifier ça au maximum pour véritablement aller vers la satisfaction des ambitions cachées. Et donc, voilà ce qui se passe ici. Et nous souhaitons beaucoup, nous demandons à la population, le chef de l'État demande souvent au peuple centrafricain de rester vigilant, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'ennemis de la paix dans ce pays qui font tout pour que le chaos puisse s'installer, qui font tout pour que la RCA s'embrase, et de manière à ce qu'ils puissent continuer à faire leur fonds de commerce. Donc voilà pourquoi, effectivement, tout ce que nous attendons aujourd'hui, c'est vraiment une plus grande vigilance de la part de la population, une plus grande ouverture d'esprit, parce que, visiblement, les gens ne voient pas toujours où sont les intérêts du pays et comment dissocier, discerner ces intérêts, les intérêts égoïstes qui cherchent à s'exprimer par tous les moyens.
Restez à l'écoute, nous recevons cet auditeur qui se trouve à Bangui, c'est Georges. Georges, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur.
Oui, vous avez entendu ce que vient de dire le porte-parole de la présidence. Vous avez été témoin de ce qui s'est passé à Bangui. Votre commentaire, est-ce que vous avez compris qu'il y a eu des gens qui ont roulé dans la farine toute une population?
Oui, effectivement. Oui, effectivement. Et ma contribution par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est juste ce que nous déplorons, ce que nous demanderons, c'est juste un problème de désarmement. Puisque par rapport au sujet-là, parler des élections, c'est bon, mais il faudrait d'abord procéder par le désarmement dans le sens de permettre à tous les candidats de battre bien les campagnes et puis de permettre à la population de se déplacer pour aller voter normalement, puisque si les armes restent encore entre les mains des gens, ça serait un peu difficile. Donc c'est un peu ça.
Est-ce que votre présidente n'a pas dit que le désarmement ira jusqu'au bout?
Oui, par rapport à sa déclaration, elle a essayé quand même de toucher ces points-là, mais bon, c'est quelque chose qui a parlé. Elle a parlé, hein? Nous attendons maintenant la manifestation, c'est-à-dire quand on annonce quelque chose, on doit procéder par pratique, voir effectivement ce qu'on a pris comme engagement.
Mmh. Pour désarmer les armes, avant de désarmer les armes, il faut d'abord désarmer les esprits. Est-ce que vos esprits sont désarmés? Je dis les esprits des Centrafricains.
Les esprits sont désarmés, messieurs les journalistes. Les esprits sont désarmés. Il suffit seulement de procéder par ça. Il faut adopter seulement la résolution par la force, puisque si on laisse que la volonté puisse se manifester, en tout cas, ça serait un peu quelque chose qui va entraîner toujours des retards. Mais c'est mieux d'anticiper, procéder par cette étape-là, par la force, et puis on aura quand même des tranquillités, et puis il y aura la sécurité.
Mmh. Gardez la ligne, je vais poser cette question au porte-parole de la présidence. Est-ce que les esprits sont désarmés?
Alors, ça, c'est une grande question. Je pense que, effectivement, on aurait pu attendre que les esprits soient désarmés en Centrafrique, puisque il vous souviendra que en février, mars, le chef de l'État, sous son impulsion, a organisé les consultations populaires à la base pour écouter toutes les populations centrafricaines des 16 préfectures et aussi les populations centrafricaines qui sont exilées dans les pays voisins, afin qu'elles puissent exprimer vraiment leur ressenti de crise et aussi, évidemment, tracer leur vision de la sortie de crise. Après les consultations populaires à la base, toujours sous l'impulsion du chef de l'État, le Forum national de Bangui s'est tenu du 4 au 11 mai dernier. Et donc, voilà pourquoi nous avons dit qu'après ces grands événements, où vraiment, et puis il faut ajouter à cela, avant les conseillers populaires à la base, avant le Forum national de Bangui, il y a eu quand même beaucoup d'actions de réconciliation qui ont été menées par le ministère de la Réconciliation, qui, avec l'appui de la communauté internationale, a mis en place une stratégie de réconciliation nationale. Donc, beaucoup d'actions ont été menées aussi bien par le gouvernement que par la société civile. J'ajoute donc tout ce que la plateforme religieuse a déjà fait pour que les différentes communautés centrafricaines puissent aller vers le vivre ensemble harmonieux. Donc après tout cela, on ne peut pas comprendre ces flambées de violence, ces regains, ce regain de conflits interreligieux, parce qu'effectivement, il a été démontré que la crise en RCA, ce n'est pas une crise confessionnelle, mais c'est vraiment une crise politique consécutive au fait que certaines régions du pays n'étaient pas prises en compte et les gens ont dû exprimer leurs préoccupations par rapport à l'abandon de leur région. Donc voilà comment on a perçu la crise en Centrafrique, mais voilà que, comme je le disais tantôt, il y a vraiment une instrumentalisation du phénomène religieux, parce que effectivement cette personne qui soi-disant a été égorgée, qui s'est retrouvée comme par hasard dans un lieu où il y avait les chrétiens, et comment, par un tour de main que nous n'arrivons toujours pas à expliquer, ce corps a été transporté dans le quartier musulman, a donc été l'élément déclencheur de cette énième crise. Donc vous voyez qu'on instrumentalise tout cela pour que effectivement la paix ne revienne pas définitivement en Centrafrique. Et effectivement, il y a des efforts qui ont été faits pour que les Centrafricains puissent véritablement avoir la paix de l'esprit, le désarmement des cœurs et des esprits. Mais malheureusement, avec cette forme de violence, nous rendons compte qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau.
Mmh, c'est un processus. Nous recevons Franck Bilbalo Zoro, qui est en Côte d'Ivoire, qui est à Abidjan. Franck, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Oui, votre commentaire.
Mon commentaire, c'est tout ce qu'ils ont dit. Moi, mon commentaire, c'est le cinquième. En fait, il y a un réel problème à Centrafrique. Il faut que les autorités politiques, il faut que les autorités religieuses essaient d'aller jusqu'à la source, comme vous l'avez dit, jusqu'à la genèse de ce problème. Si ce n'est pas le cas, on va assister encore à un Rwanda bis. Ce n'est pas mon souhait, mais si les autorités politiques sont en train de jouer avec ce problème, je pense qu'on va assister à un Rwanda bis. Il faut qu'ils arrivent à éviter ça déjà. Parce que les tribus sont en train de nous montrer que le pays est vraiment en proie à une guerre civile qui sera meurtrière. Il ne faudrait pas que les autorités politiques ou bien religieuses s'arrivent avec ce problème. Il faut qu'ils partent jusqu'à la source pour essayer de régler ce problème. Uh-huh. Voilà ce que je peux dire pour l'instant.
Oui, et dans votre commentaire sur notre page Facebook, vous dites « La situation calme aujourd'hui ne donne pas droit au calme éternel ». On parle d'élection quand tout va bien, la stabilité, l'harmonie et l'amour sont les quotidiens de population. Mais dans un pays où les troubles sont pléthores, que la quiétude. Il parlait d'élection, c'est chercher midi à 14h. Je lis textuellement ce que vous avez dit.
L'élection. Mmh. Allô?
Oui. Allô? Oui, Franck, oui.
Oui,
j'étais en train de lire votre commentaire posté sur notre page Facebook. Ouais. On va passer la parole très rapidement à monsieur Anissé. Que répondez-vous à notre auditeur d'Abidjan, Franck?
Je salue notre auditeur d'Abidjan. Je le remercie pour la pertinence de son analyse. Mais ce que je peux lui dire, c'est que effectivement, les autorités de la transition actuelle ont compris très tôt qu'il fallait aller au fond des choses, il fallait crever l'abcès. Et donc, comme je venais de le rappeler, à l'occasion des consultations populaires à la base et du Forum national de Bangui, qui, pour ce forum, s'est déroulé autour de 4 thématiques liées donc aux problèmes essentiels qui se pose dans le pays, à savoir la question de la gouvernance, la question de la paix et de la sécurité, la question de la justice et de la réconciliation, la question du développement économique et social. Donc, autour de ces 4 thématiques, l'occasion a été donnée au Centrafricain, effectivement, d'aller au fond des choses pour bien cerner les déterminants de la crise. Pourquoi il y a toujours ces crises à répétition et comment en sortir? C'était vraiment les axes autour desquels ces consultations et ce forum ont été organisés de manière à ce que, comme l'a souhaité Madame le chef d'État, que ce ne soit plus seulement les politiques qui, de leur piédestal, puissent dicter le chemin à suivre pour le pays, mais que cela puisse émaner de la base. Parce que la vision de la sortie de la crise du chef de l'État, c'était la réconciliation à la base, le dialogue politique au sommet, mais avec la justice au milieu. Et donc, avec un accent particulier
ou une place particulière accordée aux populations. Mm-hmm. Parce que pour le chef d'État, c'est vraiment, pour une fois, il ne fallait pas que le dialogue politique soit accaparé par la classe politique, mais il fallait vraiment donner l'occasion aux populations de s'exprimer. Donc, je pense qu'il n'y a pas une meilleure approche.
Est-ce que vous avez tenu compte de leur...
En donnant donc la parole aux populations, partout où elles se trouvent, pour que véritablement on puisse toucher du doigt les problèmes qui minent l'évolution, le développement de la société centrafricaine. Voilà que je peux répondre à Franck. Et je crois qu'effectivement, c'est une préoccupation. Est-ce que tous ces efforts n'ont pas abouti effectivement à toucher du doigt les problèmes de fond?
Est-ce que vous en avez tenu compte? Est-ce que vous en avez tenu compte? La présidente en a-t-elle tenu compte et retourné vers ces populations pour leur dire, voilà, ce que vous avez exprimé, on va mettre ça en application?
Mais il y a un comité de suivi du Forum national de Bangui qui a été mis en place, qui a déjà élaboré son plan d'action, qui est en train de préparer justement, comment dire, les matrices de mise en œuvre des différentes recommandations émanant des quatre commissions thématiques qui ont été, qui ont travaillé lors du forum. Et donc, en ce moment, il y a un travail de suivi des recommandations. Et je profite de votre micro pour bien préciser, parce qu'il y a beaucoup de confusion ici, le travail du comité de suivi, ce n'est pas de mettre en œuvre les recommandations. La mise en œuvre, selon ce qui a été arrêté pendant le forum, puisque j'en étais le rapporteur général, c'est que ce sont les entités concernées, à savoir le gouvernement, le Conseil national de transition, la société civile. Donc, toutes les entités concernées devaient s'appliquer à la mise en exécution des recommandations. Et le comité de suivi ne vient que pour, comme un organe de veille, pour contrôler, vérifier la mise en œuvre effective des recommandations. Donc, voilà, ce travail, tout ce travail qui se met aujourd'hui en place au sein du comité de suivi pour que tout ce que les Centrafricains ont exprimé à travers les différentes recommandations, leurs aspirations à la paix et au développement de leur pays, que cela puisse effectivement se mettre en place. Donc c'est un travail qui se met en place et qui devait effectivement faire en sorte que les populations se reconnaissent dans les différentes recommandations, parce que je profite aussi toujours de votre micro pour rappeler qu'à l'occasion du forum, l'une des grandes inquiétudes qui avait été exprimée, c'était celle de savoir est-ce qu'effectivement tout ce que les gens avaient dit pourrait être réalisé. Et c'est pour cela que les autorités ont voulu montrer la chef de l'État. Je profite aussi pour vous dire qu'elle a été
très rapidement
comité de suivi. Ouais. Et donc tout de suite, après avoir mis en place le comité de suivi, elle a donné les moyens pour que le comité de suivi puisse se mettre au travail. Et c'est ce travail qui se fait aujourd'hui.
Oui. Franck, vous avez entendu, est-ce que vous êtes satisfait? Il n'y a plus d'interrogations?
J'ai tant que bien mal entendu ce qu'il a dit à cause de peut-être des réseaux, mais je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est pas ça le fond du problème. Est-ce que le gouvernement de transition centrafricain a les moyens de réconcilier, d'apaiser les cœurs en Centrafrique? Est-ce que le gouvernement de transition a son premier souci de ramener la stabilité au pays?
Franck, c'est cette approche que le gouvernement a utilisée pour consulter toutes les couches de la...
Voilà.
Merci pour votre...
Que le monsieur comprenne qu'aujourd'hui, la Centrafrique est un pays faible.
Merci de votre commentaire, Franck.
Qui n'ont pas de moyens militaires, ils n'ont aucun moyen pour pouvoir résoudre ce problème. Donnez la parole, ça ne servira à rien.
Une pause et puis nous revenons vers vous. Une petite pause. Gardez la ligne, s'il vous plaît.
RCA dans Antenne Libre sur VOA Afrique.